bienvenue sur Radio Franca, la radio des enfants et des jeunes.
Eh bien, bonjour à tous, bonsoir, bonjour à ceux qui nous écoutent en podcast. Donc on est actuellement au Mans, dans un atelier réflectif. Un atelier réflectif dans le but de parler de la radio et des jeunes précisément. On est ici en fait dans le cadre d'une émission de radio organisée par l'association des Francas, donc de la Sarthe. Je suis entourée ici sur le plateau de personnes qui travaillent avec des jeunes principalement, soit dans des associations, soit en périscolaire, des professeurs documentalistes, des professeurs aussi donc au lycée. On a la chance d'avoir un jeune, Ewen, qui est aussi avec nous en plateau, qui pourra nous parler de ses usages. On a également Eric qui est à côté de moi, qui fait partie notamment du syndicat national des radios libres. Et tu vis à côté de Sillé, donc tu interviens sur une radio associative qui s'appelle Sillé.
Voilà,
Fréquence Sillé,
je c'est fais ça. De l'EMI aussi à partir de cette base-là, oui.
Donc un public super intéressant pour pouvoir échanger. C'est ça le but de ce moment, échanger sur nos pratiques, échanger sur nos questions, sur nos obstacles, sur nos réussites aussi, c'est important, et puis échanger aussi sur potentiellement des améliorations, des idées qu'on n'a même pas encore mis en place, et on se pose la question, est-ce que c'est possible, pas possible, voilà l'idée. On parlera aussi de ce qui se fait, je vais en parler tout de suite, de ce qui se fait un peu en ce moment en radio. On connaît la radio classique, la bande FM, qui existe depuis bien longtemps, mais il existe aussi depuis aussi un certain temps d'autres types de radio, donc les podcasts, des contenus aussi hybrides qui émergent depuis un certain temps. En fait, ce qu'on appelle des contenus hybrides, c'est-à-dire on fait de la radio mais c'est filmé, on fait de la radio c'est filmé et en plus c'est sur un réseau social. On en parlera aussi. Un état des lieux déjà pour démarrer sur la consommation des contenus de radio qui reste quand même assez importante en France, même si les formats, on l'a dit, changent. Donc des podcasts qui sont de plus en plus intégrés à l'écosystème de la radio, c'est-à-dire qu'une radio classique, je prends des exemples, en fait, toutes les radios aujourd'hui font du podcast, toutes les radios ont un site internet sur lequel on peut écouter en replay ou sur des podcasts qu'on dit natifs, des podcasts, c'est-à-dire qui sont que sur internet, toutes les radios aujourd'hui ont ces types de formats. Donc le podcast qu'on connaît bien, qui n'est pas forcément écouté non plus par tout le monde, 44% des Français écoutent des podcasts, un format qui séduit quand même particulièrement les jeunes, et on écoute le podcast sur son smartphone en général. Parmi les auditeurs de podcasts, beaucoup sont jeunes, ils ont moins de 35 ans, et ce qu'on aime bien dans le podcast quand on est jeune, c'est surtout les formats plutôt courts, ce qui correspond finalement à des usages assez similaires à ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux finalement. Autre information pour introduire et donner un petit peu de contexte, chez les 8-18 ans, une large majorité, à peu près donc 67% apprécient écouter des contenus audio, donc soit du podcast, de la radio ou même des livres audio aussi, donc soit pour se divertir, soit pour s'informer. Le contexte numérique et hybride, qu'on peut en parler un petit peu aussi, c'est-à-dire que les jeunes, j'ai commencé à en parler, ne consomment plus juste de l'audio, on regarde des tables rondes qui sont filmées, on regarde des émissions filmées, on regarde des podcasts vidéo sur les réseaux sociaux. Je propose de démarrer justement par une écoute pour donner un petit peu de grain à moudre pour cette émission. Je vous propose d'écouter en premier lieu un extrait de ce que j'ai trouvé sur le compte Instagram de Léna Situation. Pour rappeler, Léna Situation, c'est une femme qui a, je pense, moins de 30 ans. Je ne suis pas informée sur son âge précisément. Influenceuse qui a démarré récemment un podcast qui s'appelle, je vais vous dire exactement le nom, ça s'appelle Canapé 6 places. Alors, ça s'appelle Canapé 6 places, on me souffle en technique. Alors, elle a donné aussi un nom anglais à son compte sur Instagram. C'est vrai que l'anglais, c'est quand même plus fancy, hein, visiblement. Je vais chercher ce nom. Je vais essayer de m'en souvenir. Ça s'appelle Couch by Léna Situation. Voilà le nom du compte Instagram. Donc je vous propose d'écouter un extrait. Premier extrait, elle a invité le groupe, les deux chanteurs de Magic System sur son canapé 6 places. On écoute.
La pop musique ici, le reggae ici, la variété française ici, le rap ici. Mais pour nous, là, c'est la musique du monde. On mélange avec tout le monde. Les musiques du monde, c'est vraiment comme s'il y avait des kangourous, des antilopes qui envoyaient des albums. On nous a mélangé.
C'est un vrai sujet parce que la première fois que j'ai fait une magie, j'étais en vacances dans un camping dans le nord de la France. C'est la première fois que je découvrais le racisme et que nous, on était la famille d'Arabes dans le camping. Et c'est vrai que par contre...
Du nom de la table, pour ceux qui...
Que Magic System passé,
tu ne vois pas la vidéo, on regarde ensemble la table et Oval. On est sur une ambiance typiquement dans la vidéo, une ambiance un peu, je sais pas comment dire, mais sombre, comme si c'était un peu feutré. Il y a le titre du podcast qui est au fond, c'est marqué la table Oval avec une sorte de néon. Ça fait un peu intimiste en fait finalement ce podcast. Mais c'est assez intéressant à regarder, je donnerai juste mon analyse mon point de vue, et après je peux on peut en reparler, et je trouve que finalement le podcast et ce pourquoi ça fonctionne, ce type de podcast, c'est qu'en fait ça reprend à la fois les codes de la radio, du podcast, c'est-à-dire que quand on fait de la radio, on est sur quelque chose, je trouve, on parle à quelqu'un directement dans son oreille, quelque chose d'un peu intimiste, quelque chose d'intimiste, et je trouve que là, sur le coup, leur mise en scène vidéo reflète, je trouve, ce genre d'ambiance. Et en même temps, on est aussi sur le côté podcast où on est un petit peu sur du... Comment dire, on n'est pas dans la radio classique avec un cadre. On est sur quelque chose où on peut parler un peu plus librement. On n'a pas un timing. On a une heure devant nous. On est sur, je trouve, un ton un peu plus léger. Mais en même temps, on parle quand même de sujets sérieux, type le racisme. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un contenu, je trouve, assez hybride pour ça. Mais j'avoue que moi-même, je ne consomme pas ce genre de vidéos. Et Wen, qui est avec nous au plateau, est-ce que tu connaissais ça, McFly et Carlito, Lena Situation, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Qu'est-ce que t'en penses déjà de ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que ça te plaît déjà ce que tu as entendu en fait? Est-ce que ça t'intéresserait d'écouter ça en fait, toi, dans ta vie quotidienne?
Oui.
Ouais. Et pour quelle raison, tu sais?
Bah ça a l'air assez intéressant. Parce que de ce que je connais, leur contenu, c'est drôle. C'est pas ça donne pas des informations comme ça.
C'est-à-dire quand tu dis on donne pas des informations comme ça, ça veut dire t'aimes bien le côté léger ou comme on se disait ce matin quand on a entendu, on s'est dit ce matin en conférence qu'il y a beaucoup d'informations par exemple négatives qu'on voit dans les... C'est ça que t'aimes bien, parce que c'est pas trop sérieux du coup?
Bah oui, du coup, parce qu'ils essaient juste de faire rire.
Et le fait que le podcast, ils sont en vidéo, est-ce que toi par exemple tu écoutes du podcast sans la vidéo ou est-ce que tu écoutes des fois avec la vidéo?
Bah les deux.
Les deux.
C'est mieux des fois avec la vidéo pour voir les images, mais après c'est bien aussi sans. Sans la vidéo, c'est bien aussi.
Est-ce que tu arrives à rester concentré sans la vidéo ou pas? Est-ce que c'est compliqué des fois d'écouter sans image?
Oui, des fois c'est compliqué, puisque tu vois pas ce qu'ils font pendant.
Un avis autour de la table, le podcast vidéo, vous connaissiez ou pas? Le podcast, mais filmé. Est-ce que vous en consommez? Est-ce que vous connaissiez?
Moi, je connaissais, mais je ne consomme pas. Moi, je reste très, très à l'ancienne ou à la radio. J'ai pas spécialement envie de voir la tête des gens qui animent. Si je veux regarder des visages, j'allume ma télé. Mon tube cathodique. mon écran de télévision, mais j'ai encore envie de rêver. Ou mettre le visage que je veux sur une voix. Et le contenu, la voix, le sujet va plus m'intéresser que le regard, le visage de la personne et l'ambiance sur le studio.
Et en même temps, on peut comprendre pourquoi ils font de la vidéo quand même. McFly et Carlito, Lena Situation, ils sont sur des réseaux sociaux très visuels. Enfin, Instagram est basé sur la photo, leur image est basée... Enfin, Lena Situation, le nom de son compte, c'est son prénom à elle. Enfin, l'image est tellement... On a l'impression que l'image est super importante pour les influenceurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que finalement, c'est pas étonnant finalement de les voir sur un podcast filmé, quoi? Finalement, est-ce que c'est pas une suite logique?
Il n'incarne plus une émission ou une chaîne, c'est le programme en fait qui est à leur image en fait, c'est leur marque, c'est leur nom.
C'est ça, l'image de marque.
Voilà. Après, c'est un signe des temps, c'est comme ça, c'est une évolution. Mmh. Enfin non, Mamadi, je ne me suis pas présenté. Quoi. Il fallait que je fasse présenter avant de prendre la parole.
Bah, tu peux te présenter maintenant.
Enfin, je m'étais déjà présenté tout à l'heure. Mais...
Ouais, mais on n'était pas en train d'enregistrer.
Ah oui, bah non, Mamadi Sandéré, donc je suis rédacteur en chef du webzine Vitav au Mans. Et on est aussi... je travaille beaucoup avec la radio Cartable FM sur le Mans et en forme des jeunes toute l'année à l'écriture journalistique et à la pratique radiophonique.
Je me tourne vers vous, Eric, vous êtes à côté de moi. On l'a dit, donc vous travaillez, enfin vous êtes excusez-moi, en lien avec le CNRL, donc le Syndicat National des Radios Libres, et vous intervenez aussi sur une radio locale ici dans la Sarthe qui s'appelle Fréquencier. Alors à quand Fréquencier sur les réseaux sociaux et du podcast filmé?
Ben, il y en a déjà.
Ah ben super, vous êtes déjà à la page.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, toutes les radios associatives pratiquement mélangent l'ensemble des supports, l'usage des réseaux sociaux, Twitch, etc., etc. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est la question qui a été posée tout à l'heure, de savoir est-ce que c'est plus facile de suivre quand il y a l'image ou pas. Il y a une chose qu'on oublie. C'est que la radio a une particularité, c'est le seul média, le seul support où on peut consommer de l'information en faisant autre chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut faire la cuisine, on peut conduire sa voiture, on peut faire une partie de pétanque, enfin ce qu'on veut, quoi. Hein, et en même temps, on peut avoir l'info. C'est le seul, parce que ça mobilise en fait qu'un seul sens, c'est Louis.
C'est Louis, c'est vrai. Est-ce que vous pensez justement que... le fait d'avoir cet ajout-là, je veux dire, pour les jeunes, comment expliquer ? Est-ce que le podcast filmé comme ça, que ce soit des personnes comme Léna Situation ou McFly et Carlito, qui font du divertissement, hein, quand même, on est un peu entre le divertissement et l'information, est-ce que vous trouvez ça intéressant pour tout simplement rajouter, on va dire, un format pour que les jeunes puissent tout simplement s'informer. Je me tourne un peu vers vous, les professeurs documentalistes et puis professeurs de physique chimie. Pareil, je vous laisse vous présenter. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez de ce format-là? Est-ce que de première vue, c'est plutôt, vous prenez ça plutôt de manière positive ou en mode « Ah non, je sais pas trop, je suis un peu... » dubitatif. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Alors moi, je suis Christophe Jeanne, hein, professeur documentaliste. Donc j'anime depuis quelques mois un club web radio au collège. Donc les élèves qui sont inscrits dans ce club, finalement, eux n'écoutent pas de podcast. Par contre, ils écoutent, ils regardent pas mal de vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Et certaines vidéos peuvent ressembler à des podcasts. Et je pense que ça peut être, le podcast filmé peut être un bon outil de transition vers l'écoute de podcasts purement audio.
Ah oui, que ce serait une porte d'entrée pour aller vers du podcast plus classique, c'est ça?
Oui.
Pourquoi pas?
Puis je pense, je ne sais pas si les jeunes ont beaucoup le... Nous, on avait, enfin, quand on était plus jeunes, quand moi j'étais plus jeune, en tout cas, on pouvait avoir dans notre chambre un lecteur de cassette et poste de radio. Donc c'était un média assez naturel pour nous. Et puisque eux, leur média naturel, c'est leur téléphone portable, c'est ce qu'ils vont avoir dans leur chambre. Donc forcément, dès le départ, il y a l'image que nous, on n'avait pas.
Donc Lucille, professeure au lycée Sud, donc en physique chimie. Alors je connais assez peu les pratiques de mes élèves, parce que moi je ne travaille pas sur l'éducation média, j'utilise en fait le média pour créer des podcasts avec mes élèves. Après moi je dirais que ça permet peut-être de correspondre à leurs pratiques en fait. Comme ils ont l'habitude de regarder des choses filmées en format court, bah voilà, ils ont la vidéo en plus du son. Après je ne suis pas sûr que ça ait une vraie plus-value sur ce qui se dit, mais ça ne me gêne pas à outre mesure.
Un petit plus quoi. Et Wen, toi, tu as un téléphone?
Oui.
Ouais. Et donc, est-ce que tu as un radio-réveil? Est-ce que tu as un radio-réveil qui te réveille le matin?
Oui.
Qu'est-ce qu'un radio-réveil? T'as un radio-réveil qui te réveille le matin? Un poste de radio avec les chiffres écrits en rouge dessus?
Oui.
Ah, ok. Bon, bah, alors, t'écoutes la radio le matin quand tu te réveilles ou pas? Ou c'est un bip, bip, comme ça?
Bah, ça dépend des fois.
Ça dépend des fois. Donc, tu peux écouter, donc t'écoutes la radio le matin en te réveillant?
Oui.
T'écoutes quoi, juste par curiosité?
Ça dépend sur quoi ça tombe.
Ouais. Plutôt musique, plutôt info?
Musique, c'est mieux.
Très bien. J'ai une autre question à vous poser à ceux. Alors ceux qui sont dans la salle, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ça? Est-ce que vous avez déjà entendu des jeunes parler de McFly et Carlito, Léna Situation? Ça c'est. Non, pas vraiment. Ouais. Bah. comme tu veux.
Bonjour, je suis Chloé Rousseau, professeure documentaliste.
Ça bouge. Ouais. Ouais.
Je dois me représenter.
Je veux bien, ouais, si tu peux juste recommencer.
Donc je suis Chloé, professeure documentaliste en lycée. Et souvent quand on parle aux élèves de ce qu'ils écoutent comme podcast ou de ce qu'ils écoutent tout simplement, ils vont parler de podcast et pour eux déjà la vidéo est inclue dans ce format-là. Ils vont donner des exemples d'émissions sur YouTube ou voilà, c'est pour eux c'est vraiment mixte en fait. J'ai l'impression que c'est pas que audio le podcast.
C'est-à-dire qu'en fait le podcast juste de l'audio finalement ça ils font pas forcément la différence en fait.
Oui, puis maintenant, c'est même ça. Sur des plateformes type Spotify, il y a la vidéo qui peut être inclue dans le podcast. Donc, en fait, c'est très... Actuellement, c'est assez mélangé. Quoi.
C'est assez mélangé et ça rentre dans leur pratique, finalement. Comme je disais, ça rentre aussi dans leurs usages, c'est assez naturel.
Moi, je veux bien intervenir, et plutôt en tant que maman. Oui. Donc, j'ai des enfants qui sont plus jeunes. Mon aînée, elle a 11 ans. Et donc, pour le coup, le podcast, elle l'a qu'en format audio.
C'est-à-dire
que bah, vu qu'elle n'a pas de téléphone, elle n'a pas accès à l'image. Et ça lui va très bien. Enfin, c'est des choses qu'elle écoute beaucoup dans la voiture quand on va être en voyage ou dans le train. Et elle aime bien.
Donc elle utilise quoi comme support? Elle utilise...
Elle a une enceinte, donc c'est l'enceinte Merlin, pour ne pas citer de marque, où en fait on peut télécharger des podcasts de différentes radios. Alors il y a beaucoup de France Inter, France Info, mais voilà, il y en a d'autres qui en font aussi. Et donc elle peut les écouter en boucle quand elle veut. Elle peut aussi l'écouter à la maison, ça lui arrive de l'écouter quand elle a un moment...
Oui, c'est vrai que Merlin, oui, c'est, j'en ai déjà entendu parler. C'est-à-dire que c'est comme un, c'est un téléphone, mais il n'y a rien sauf la radio finalement. On peut écouter en replay quand on veut où on veut et.
Oui, c'est ça. Ouais. Oh, c'est une enceinte où il y a des choses de préenregistrées en format audio.
Oui, juste, on parle des jeunes en général. On ne peut pas parler des jeunes en général, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même pratique à 8 ans, à 11 ans, à 15 ans. Par expérience, si je prends le cas de ceux que j'ai vus récemment, par exemple, je pense au collège de Saint-Côme-en-Véret, donc, eh ben, avec des sixièmes, podcast, c'est zéro. C'est-à-dire qu'ils consultent pas les podcasts. Et ce qui vient en premier en information, de façon étonnante, eh ben ça reste la télévision consommée par les parents sur le journal du soir. Voilà, sur la vie familiale et les discussions avec les parents. Et finalement, les supports internet, etc., viennent bon en deuxième, troisième position. Voilà, hein. Bon, bien avant la radio. Et bien avant nos amis de la presse écrite, qu'on doit aussi valoriser dans nos actions en EMI, bien sûr.
Mais en même temps, est-ce que le fait de regarder un podcast, regarder le podcast, comme on l'a dit, bah, il faut forcément être devant son téléphone, devant la vidéo. Donc finalement, est-ce qu'on est vraiment attentif à ce qu'on écoute? Est-ce que ce format-là ne disperse pas l'attention justement des jeunes? Des jeunes, alors c'est vrai, on dirait que des jeunes finalement c'est trop généraliste. En tout cas des utilisateurs qui sont jeunes,
ou des
pour
consommateurs.
Ceux qui des consommateurs jeunes de podcasts vidéo, on va appeler ça comme ça.
Moi je reviens sur ce que disait Eric tout à l'heure. Donc, moi j'estime que lorsque justement on n'a pas la vidéo, on reste quand même focus, concentré. Mieux concentré, on peut même faire d'autres choses, on peut faire... Je corrige des articles souvent, donc je peux corriger des articles en écoutant un podcast, faire la vaisselle en écoutant un podcast. Mais au moins, c'est mon oreille. En fait, il n'y a que mon oreille qui va être concentrée et mon cerveau. Et c'est vrai que ça peut nous détourner de l'attention, ça peut nous disperser. Ben, moi, je pense dans ma pratique, mais je pense que pour des consommateurs jeunes ou moins jeunes aussi.
Oui. Et pour compléter sur la consommation, enfin j'aime pas le mot consommation, mais des plus jeunes, je reprends encore cet échantillon de sixième. Par contre, on voit l'extrême présence d'utilisation de Spotify et de Deezer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut effectivement que des jeunes aillent vers des productions qui sont réalisées par les radios, c'est sans doute ou YouTube, hein. C'est sans doute vers ces plateformes de diffusion qu'il faut aller. Et un peu par hasard, des fois, ils peuvent tomber sur effectivement des choses un peu intéressantes sur ces plateformes. Donc, ce n'est pas à négliger.
Mais c'est vrai que les programmes les stations n'ont plus trop le choix aujourd'hui.
C'est ça, parce que tout le monde maintenant a toutes les radios ou un podcast maintenant qu'on peut réécouter quand on veut, où on veut, en replay.
On discutait récemment avec Jean-Yves Breteau de Radio Alpa, qui est là sur un autre atelier. Oui. Il y a Radio Alpa qui est mis aussi au podcast. Voilà, c'est qu'à un moment, on a aussi nos valeurs, nos convictions, nos modes de fonctionnement, mais aussi on doit s'adapter aussi au niveau, voilà, aux évolutions de la société, aux évolutions des pratiques, des jeunes et des moins jeunes.
Pour ceux qui ont fait des ateliers de radio avec leurs élèves, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe un atelier de radio? Comment vous animez cet atelier? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu le déroulé d'un atelier? Voilà, je dirais un atelier podcast, souvent on parle bien de radio.
Alors le point de départ, c'était les podcasts de Bayard Presse. Le point de départ, c'était les podcasts de Bayard Presse.
Alors,
les pour ou contre, il y avait des petites séries pour ou contre, avec des thèmes genre pour ou contre, je ne sais plus.
C'est-à-dire que vous écoutiez ça en bas à la base, vous donniez du grain à moudre aux élèves avec...
Par rapport voilà, des petits podcast. Débats, avec des avis à donner, et on trouvait d'autres thèmes, et à partir de ces autres thèmes, on organisait aussi des débats. Voilà.
Donc des débats autour d'une écoute d'un podcast.
Voilà, le dernier en date, c'était sur le vouvoiement au collège. Est-ce que c'est normal que les professeurs tutoient les élèves et que les élèves soient obligés de vouvoyer les professeurs? Donc on a fait un petit podcast sur ce sujet-là.
Donc vos élèves ont travaillé sur ce sujet?
Oui.
D'accord. Ce podcast-là, comment ça s'est passé sur la prise en main des micros, la technique? Tout ça, ça s'explique en atelier, j'imagine. Il faut faire tout un pas à pas, je sais pas comment on pourrait dire.
Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore de studio comme celui-là.
D'accord. Donc comment vous faites? Alors justement, quand on est... Il y a plein de collèges et d'autres établissements qui n'ont pas de studio.
Alors j'ai un micro Zoom, donc je pose un micro Zoom au milieu de la table. On est autour de la table et on
ça,
débat.
Ça, c'est un enregistreur avec
un enregistreur, oui.
Plusieurs câbles micro.
Non, un enregistreur. Il y a juste un seul micro, le micro Zoom. Enfin, quand je dis micro, un micro,
okay.
Voilà.
D'accord.
On s'enregistre comme ça.
Et par hasard, peut-être pour rentrer un peu plus dans le détail, pour quelqu'un qui pourrait écouter le podcast, ça coûte combien ça, comme investissement?
Micro Zoom, c'est moins de 200 euros.
Il y en a même à 50 euros. Hein.
Ouais, ouais.
Il y a, aujourd'hui, ça s'est tellement démocratisé qu'il y en a à tous les prix.
Et donc, c'est Lucille. Ouais, c'est Lucille, ça, Lucille, dans votre établissement, c'est pareil, on fait du podcast.
Ouais, on fait du podcast. Nous, on a la chance d'avoir une salle radio et on a la chance d'avoir une collègue donc qui est Chloé qui s'en occupe en fait au niveau du CDI. Donc pour nous, collègues disciplinaires, c'est très pratique. C'est-à-dire moi, je m'occupe de la partie contenu avec ma collègue de SVT qui est là aussi, et toute la partie matériel, enregistrement et même la préparation en amont, c'est ma collègue du CDI qui s'en occupe et qui peut faire la même chose quelle que soit la discipline. Donc c'est-à-dire que nous, on fait une séance de présentation, un peu comme ce que disait mon collègue, où ils écoutent des podcasts et ils découvrent la structure d'un podcast et ce qu'il y a dedans. Donc ça nous occupe une heure. Ensuite, on travaille sur le contenu qu'on veut mettre dedans. Donc nous, on est sur des choses, on est autour du réchauffement climatique. Donc c'est pour ça qu'on est SVT, physique-chimie. Donc nous, on travaille le contenu. Une fois qu'ils ont écrit ce qu'on appelle leur conducteur, ils vont les enregistrer par petits groupes sur nos heures avec notre collègue du CDI. Et puis après, nous, on retravaille le montage sur nos séances à nous.
C'est eux qui écrivent leurs textes.
C'est eux qui écrivent leurs textes, ouais.
On l'a vu dans ce qu'on a entendu, quand on fait de la radio, quand tu fais du podcast, il faut un certain ton, il faut apprendre à parler distinctement au micro. Comment vous leur apprenez à faire ça? Parce que vous avez des petites idées, des exercices pour pouvoir appréhender le micro. Ça peut être intimidant, peut-être
Non, moi, je ne le fais pas trop, sinon Chloé va se rapprocher encore à vous expliquer comment elle fait.
Très bien.
On a un micro si besoin pour les interventions de la chat.
En fait, j'ai pas vraiment de méthode. Je trouve qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est la pratique des vocaux, les jeunes sont beaucoup plus habitués en fait à parler devant, pas forcément devant un micro, mais en tout cas à entendre leur voix et à pratiquer leur voix. Après, l'essentiel, c'est de pratiquer, je dirais. Et moi, je leur dis beaucoup qu'il y a du montage derrière possible et que s'ils font des erreurs ou qu'ils veulent reprendre, c'est possible. Et ça détend souvent l'atmosphère. Voilà,
parce que des fois, on pourrait avoir tendance à être un peu en mode scolaire, peut-être à lire un texte au départ. Ça pourrait être... Par exemple, moi, dans mes ateliers, c'est vrai que ça donne ça. Parfois, comme ils sont peut-être un peu stressés, ils ont la feuille devant eux et puis on est sur un ton de lecture. Parfois, c'est vrai que c'est... c'est tout un travail. Même nous, en tant que journaliste, je dis, on met parfois des années à avoir un ton de radio correct. Hein,
mais souvent, le travail d'écriture participe beaucoup à l'aisance aussi derrière. Si le texte est bien construit, s'il est adapté au niveau des temps employés, etc., à l'oral, bah, même si c'est lu derrière, ça peut quand même donner un contenu assez agréable à écouter.
Après, c'est quelque chose qui nous intéresse parce qu'ils ont une épreuve aussi au bac qui est maintenant qui est le grand oral, donc qui a beaucoup de points. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'enseignants de discipline, on est censé les préparer à ce grand oral. Donc la partie contenu, on maîtrise à peu près. La façon de le dire, on le maîtrise un peu moins. Donc on a aussi un travail en parallèle là-dessus. Donc après, c'est un peu sur les pratiques de chacun et les loisirs de chacun. Là, on travaille avec une collègue qui fait du théâtre, donc qui nous a donné plein de petits ateliers de mise en voix. Et donc on va tester ça, on l'a pas encore testé, donc je peux pas trop vous en parler, mais on va tester ça avec des élèves, voir si ça les aide ou pas.
C'est-à-dire que vous allez faire des ateliers de théâtre en parallèle de ça, enfin en parallèle de ces ateliers podcast avec les élèves du groupe podcast, c'est-à-dire que c'est eux qui vont... Il y a un mélange des...
C'est pas... Alors il y en a, ça va être commun, et ça dépend des... Parce qu'on fait des podcasts avec plusieurs classes. Donc il y a une classe qui auront les deux, et il y a une classe qui feront les podcasts sans les mises en...
D'accord, ok. Ah bah vous verrez du coup peut-être la différence entre...
On verra. Il y a l'âge aussi qui sera différent. Ouais. Je pense déjà que même sans ça, ce serait différent.
En tout cas, le théâtre, c'est pas mal pour travailler sa confiance en soi, parler devant les autres. C'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que vous... j'ai une petite question. Justement, vous parliez de l'épreuve orale au baccalauréat. Ça fait combien de temps que vous faites ces podcasts avec vos élèves?
Alors, avec ceux du bac, c'est la première année. Avant, on faisait ça sur des secondes. Ouais. Après, c'est un peu l'opportunité. Voilà, ça dépend des collègues qui on travaille, le temps qu'on a. L'année du bac, c'est quand même une année assez chargée. Donc, en général, on fait peu autre chose que travailler le bac. Voilà, là, ça s'y prête dans un enseignement de tronc commun.
Est-ce qu'il y a un réel impact, est-ce que vous l'avez vu vraiment, l'impact d'un atelier de radio, un atelier de podcast sur la diction des élèves, sur leur confiance en soi? Est-ce que ça se voit, ça se sent? Est-ce que vous avez remarqué une évolution sur l'année? Est-ce que c'est trop court sur l'année de voir les évolutions?
Alors je dirais que c'est trop court sur la partie orale. Après, sur la dynamique de classe et le fait d'avoir un projet, ça joue. Après, sur l'impact sur leur diction, je pense que je ne saurais pas répondre.
C'est-à-dire une dynamique, de classe, c'est-à-dire qu'il y a l'émulation dans la classe, ça crée du lien, c'est...
Un petit peu plus, ouais, parce qu'on on se retrouve sur des moments où on travaille autre chose. Ce n'est pas les mêmes élèves qui sont mis en valeur, parce que ce n'est pas des compétences purement scolaires qui sont mises en valeur. Donc, en fait, ça permet de passer sur autre chose. Alors, le podcast, mais ça pourrait être un autre atelier.
Si je peux me permettre d'ajouter une petite chose. L'éducation aux médias, à l'information et tout ce qui vient derrière, la citoyenneté, la parole, l'esprit critique, etc., ça ne relève en aucun cas, jamais, du one-shot. C'est-à-dire que si, par exemple, on considère que parce qu'une fois on aurait fait participer un élève à un enregistrement, etc., il va forcément obtenir des compétences qui vont lui permettre d'être meilleur dans les relations sociales, les profs du bac, etc., là, on se fout le doigt dans l'œil complètement. Non, c'est sur la durée que les choses se font. De même, je voudrais aussi corriger une petite chose, c'est que, encore la même remarque que tout à l'heure, on parle des élèves. Mais les élèves, selon le milieu social d'où ils viennent, selon la façon dont on parle dans la famille, selon la façon dont ils s'expriment avec les copains, selon le vocabulaire dont ils disposent, selon l'accent eux-mêmes, l'accentuation qu'eux-mêmes ils ont dans la discussion de tous les jours, ils ne sont pas tous forcément spontanément sur la possibilité de s'exprimer en termes médiatiques. Et là, nous, ce qu'on doit se donner comme obligation intervenant en EMI, c'est d'avoir un vrai positionnement pédagogique, c'est-à-dire de se dire, voilà, j'ai tant d'élèves qui sont différents, mon objectif, c'est pas d'avoir des élèves savants, merveilleux, qui vont être étonnants, etc. C'est principalement d'amener ceux qui ont le plus de difficultés à arriver à une capacité d'expression. On est là pour permettre d'augmenter les compétences sociales. Donc ça me paraît fondamental.
Ça peut révéler des talents, peut-être la radio.
Ouais, j'ai la raison. Donc j'ai t'as raison, Eric. Mais ouais. C'est vrai que effectivement, c'est comme pour toute pratique ou comme toute discipline, que ce
tout
soit type artistique. Nous, on a un rendez-vous régulier, puis ils viennent sur... c'est du volontariat, nous, les jeunes qui viennent sur notre émission.
Sur Cartable FM,
Cartable
ça,
FM,
c'est
ouais.
une, donc une radio qui est située ici, dans la
Sarthe,
c'est
ça qui est, dans l'association, est basée dans un collège,
oui,
dans le milieu scolaire. Et
donc les élèves viennent régulièrement dans vos locaux faire des chroniques, ça
absolument.
Se passe que, en quelques mots, vous racontez
bah, nous, on propose des stages sur chaque vacances scolaires, déjà sur une journée, pour... leur apprendre les règles journalistiques, la manière dont on écrit, et puis après on travaille sur, sur le temps, comment on met en place sa voix, etc. Sur une journée. Ces jeunes-là ne sont pas forcément obligés de revenir, mais il y en a d'autres, par contre, lorsqu'ils disent ah, « Tiens, le stage m'a plu, je vais m'inscrire à l'émission », ils viennent un mercredi sur deux, quand ils ont envie. On ne force personne, on envoie un mail toutes les deux semaines, et ils viennent avec leur chronique préparée, qu'ils ont déjà préparée chez eux, ils viennent avec leurs feuilles, et on passe en direct, donc là, il n'y a pas, c'est sans filet. Puis après, leur temps, nous, on le voit évoluer au fil de l'année, les plus timides, les plus hésitants, et puis après, il y en a qui vont mettre le temps qu'il faut, accentuer le moment où il faut, et puis des fois, avoir un temps ironique, avoir une dynamique sportive lorsqu'ils vont parler de sport, et tout ça, mais ça, c'est pas forcément, c'est pas nous qui allons le transmettre, le travail, en fait, de même,
c'est la pratique,
un peu à l'instinct, oui.
La
fait, avec chacun, leur diversité, c'est ça qui est assez fascinant.
Sur les formats, là, on vient de parler donc de radio. C'est-à-dire que là, on parle de radio, on va dire assez, je dirais classique. C'est-à-dire que là, par exemple, sur fréquence, alors bien sûr, vous êtes tous plus ou moins fréquenciers sur, vous êtes sur les réseaux sociaux, hein, c'est ça. Vous êtes présents en replay, on peut écouter en replay. Mais sur la pratique de la radio, finalement, que ce soit au lycée ou ici sur fréquence, on est dans un studio, on est autour d'une table, finalement, le cadre est une radio, on va dire classique, hein, je dirais. Est-ce qu'on ne pourrait pas, c'est une question que je me pose moi-même par rapport à ma pratique, on en parlait ce matin pendant la conférence, c'est vrai que le top 1 donc de la source d'information des jeunes, c'est vrai qu'encore une fois, c'est un mot généraliste, mais enfin, l'étude que j'ai, en tout cas, que j'ai vue sur ce plan, c'est les 15-30 ans. Chez les 15-30 ans, top numéro 1, on s'informe sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'on pourrait pas, du coup, faire de la radio que 100% réseaux sociaux, créer des médias dans les lycées qui soient donc que sur les réseaux sociaux pour se caler avec leurs usages? Ou, voilà, pour ou contre, je dirais, je lance un peu le débat, pour ou contre une pratique qui serait, je dirais, qui privilégie plus les réseaux sociaux que les médias traditionnels, je dirais.
Moi, je vais apporter tout de suite un élément là-dessus. Mm. On parle bien de médias. C'est-à-dire que le média, c'est un duo. C'est-à-dire, d'un côté, il y a quelqu'un qui émet, qui envoie un message, qui fabrique de l'information ou du divertissement, et il y a de l'autre côté des gens qui écoutent.
Mm-hmm.
Donc la vraie question à se poser, c'est comment est-ce que la parole, entre autres des jeunes, mais aussi ça peut être des personnes âgées, enfin de peu importe les parties de la population, de façon à ce que cette parole puisse arriver aux autres,
tout
en une vraie
fait.
Situation médiatique. Ah. Alors évidemment, nous, on a un avantage, comme on est en FM, en DAB+, sur Internet, etc., c'est facile, évidemment, de toucher du monde, mais c'est aussi une des limites de la web radio, c'est que la web radio est souvent beaucoup plus confidentielle, voire pire des fois quand la web radio n'est pas accessible par un code sur le site de l'établissement, ou dans ces cas-là, c'est ridicule. Ça m'est arrivé une fois,
ah oui,
une fois d'intervenir à un établissement, c'était dans la région parisienne, et je voulais voir ce qu'ils faisaient. Fallait que je saisisse le code.
Ouais.
C'est
accessible finalement
uniquement. Mais ça, c'est pas du média, ça, c'est l'exercice scolaire.
Oui, c'est ça.
Voilà, donc parlons bien
ça
média.
Ça dépend des objectifs. Alors finalement, parce que si je vous suis, alors si les jeunes veulent s'adresser aux jeunes, bah alors je continue toujours sur ma lancée. Pourquoi pas ne pas être sur des réseaux sociaux, du coup, pour toucher plus leurs camarades, finalement, je sais pas.
En vrai, c'est sûr, quand nous, en milieu scolaire, en fait, ce qu'on fait, c'est ce que dit Eric. Nous, on fait pas du média. On utilise l'outil médiatique pour aller vers d'autres pratiques pédagogiques. Mais voilà, nous, on a certains freins qui vont être le droit à l'image, le droit au son. Et c'est vrai que c'est déjà des projets qui sont longs à mettre en place. Si en plus, on passe beaucoup de temps en fait à récupérer les droits au son, les droits à l'image. Et c'est vrai que c'est pas notre priorité. Donc en fait, on fait pas vraiment, on ne produit pas du média. On utilise le même outil à d'autres fins. En fait.
Et ma question portait aussi sur, est-ce que finalement, réaliser un média, je dirais, 100% réseaux sociaux aux jeunes, est-ce que ce serait, encore une fois, je pose la question pour ou contre, est-ce que ce serait pas plus efficace et plus pertinent, étant donné qu'en fait, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire qu'ils font quelque chose, ils font, on va dire, un média qui leur ressemble. C'était plutôt sur ça. Moi, sur la pratique scolaire, hein, j'entends les freins. C'est vrai que c'est compliqué sur les droits à l'image, mais voilà, les jeunes qui s'adressent aux jeunes, en fait. C'est un peu ça mon propos, enfin ma question.
Le frein qu'il y aurait, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui refusent, en fait, la diffusion de leur voix et qui vont se contraindre à l'exercice parce que c'est pédagogique et que c'est obligatoire. Mais dès l'instant où on émet l'idée de diffuser, il y a beaucoup de freins, je dirais à peu près un tiers de la classe qui va refuser. Et du coup, ça, pour détendre aussi l'exercice, ça aide, dans un premier temps en tout cas, de pas engager la diffusion.
Et quand on dit le frein à la diffusion, c'est quoi? C'est les parents qui veulent pas ou c'est les élèves qui sont pressés à l'idée? Ouais, ouais. C'est une pression de se dire qu'on va être écouté.
Oui.
D'accord, je comprends.
En tout cas, pour ma part, en tout cas, concernant notre collaboration avec RTBFM, je suis quand même attaché au studio.
Oui.
On a des jeunes qui viennent. Bien entendu, ils sont 6, 8 par moment. C'est pas l'activité, on va avoir 50 jeunes. Pourtant, on a 50 jeunes qui écrivent, peu à venir faire de la radio, parce qu'il y a toujours voilà, la confiance en sa voix, etc. C'est un exercice quand même qui peut être périlleux, mais qui est tellement passionnant. Mais moi, je suis très attaché à l'aspect physique. Il y a des micros qui sont là, on est dans un studio. Il y a tout un décorum qui peut impressionner, mais qui, moi, pose aussi le cadre et une ambiance. Et je vais... dans la mesure du possible, toujours privilégier, même si j'écoute du podcast, hein, mais privilégier justement ce décorum, ce lieu physique aux réseaux sociaux, aux réseaux sociaux.
C'est une activité en soi, quoi, c'est une expérience en soi, quoi, en fait, finalement.
Absolument, comme si on proposait de faire du foot,
c'est une activité, ils font ça aussi pour le plaisir, oui. En fait, aussi.
Dans l'idéal, moi, je serais assez partisan de diffuser sur les réseaux sociaux avec les élèves volontaires. Mais un club web radio s'y prête, puisque les élèves qui s'y inscrivent, c'est qu'ils ont envie d'être diffusés. Donc, il n'y a plus le problème du refus d'être diffusé.
Mm-hmm.
Bon, par contre, là, bientôt, c'est la loi qui va nous arrêter, parce qu'on ne va pas avoir le droit, enfin, surtout au collège. Donc, les élèves de moins de 15 ans n'auront pas le droit d'aller sur les réseaux sociaux, donc, a priori, de diffuser. Voilà. Je pense même l'idéal, enfin ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on devrait plutôt accompagner les élèves dans leur usage des réseaux sociaux. C'est-à-dire, pourquoi pas autoriser, Facebook c'est plus à la mode, mais t'as un compte Facebook, montre-le-moi, comment tu fais, comment tu l'organises, si t'as envie de me le montrer. Et ça serait peut-être plus intéressant de faire ça avec les élèves que plutôt de vouloir leur interdire. Enfin ça c'est un avis... personnel, et qui, bon, et puis a priori, vu l'évolution de la loi, ça ne va pas se poser.
C'est-à-dire que, en fait, je réfléchis en même temps qu'on se parle dans les bases, c'est-à-dire que si je comprends bien, il faut vraiment faire une différence entre, comme je dis, je répète, qu'il y a une étude qui existe sur le sujet de l'INJEP, on pourra mettre une bibliographie à côté du podcast en commentaire, qui nous dit que, voilà, les 15-30 ans, c'est les réseaux sociaux, c'est la première porte d'entrée vers l'info. Mais en même temps, c'est pas parce que du coup, si je vous suis, les jeunes, les élèves que vous rencontrez, c'est pas parce qu'ils ne produisent pas, qu'ils ne réalisent pas une émission de radio sur les réseaux sociaux, que finalement c'est pas intéressant. Finalement, ce qui compte, c'est pas forcément le support ou les auditeurs. C'est ce qui compte, c'est la pratique de la radio, même si c'est très traditionnel, même si les élèves donc n'écoutent pas la radio traditionnelle FM. Finalement, ça reste très intéressant sur le plan pédagogique d'être, comme je dis, dans un studio, devant un micro. En fait, que ce soit finalement diffusé sur les réseaux sociaux ou sur le compte du lycée, même s'il y a un mot de passe, finalement, oui, ce qui compte, c'est le travail.
On ne parle pas ici des performances réalisées les médias, ce n'est pas ce qui nous préoccupe.
Exactement.
Ce qui nous préoccupe, c'est de savoir en quoi on va pouvoir être utile à l'avancée des jeunes en termes d'éducation et de compétences. Et là, effectivement, tous les supports sont bons, c'est-à-dire, comme tu dis, qu'on développe quelque chose uniquement pour les réseaux sociaux. Mais bien sûr, pourquoi pas, j'entends effectivement l'argument légitime qui vient d'être énoncé par le collègue de Beaumont, avec les limites qui vont effectivement arriver là-dessus. Mais peu importe le support à partir du moment où on est bien dans une mission qui consiste à avoir un discernement par rapport à l'information et au traitement. Et moi, il y a un mot sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est que tu viens de dire les jeunes accèdent à l'information par les réseaux sociaux.
Oui.
Non, ils accèdent à la communication. C'est-à-dire qu'ils accèdent un petit peu à tout et à n'importe quoi. Et c'est à nous d'essayer de leur faire comprendre quelle est la différence entre l'information telle qu'on l'entend, nous, avec toute la déontologie qu'il y a derrière, par rapport à la communication à tout va, qui est portée de façon le plus souvent, d'ailleurs, irresponsable, voire anonyme totalement. Donc là-dessus, il y a du boulot à faire. Donc attention, c'est pas parce qu'on lit quelque chose ou qu'on regarde une image qu'on reçoit de l'information.
Alors tout à fait, oui. Mais la question, justement, dans l'étude, je précise bien, c'est qu'en fait, la question qui a été posée, c'est comment, via quelle source, avec quelle source vous informez. Et la première réponse qui sort, c'est « je m'informe ». Via les réseaux sociaux, en fait. C'est-à-dire que...
Et là, à nous de corriger la formule tout de suite.
Bah, c'est-à-dire...
C'est la première chose à faire, corriger cette formule.
Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, sur les réseaux sociaux, je suis d'accord, il y a un peu tout et rien, mais il y a quand même beaucoup d'infos, quand même. Enfin, il y a, comme on disait ce matin, tous les médias sont sur les réseaux sociaux.
Il faut qu'on soit hyper précis sur le terme information. L'information est codée. Est normé par des textes, information égale journalisme professionnel ou pas, mais égale un certain nombre de règles que sur les réseaux sociaux on ne retrouve pas forcément parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux et il faut surtout alerter les jeunes sur les dangers qu'ils peuvent avoir et là-dessus ils sont de plus en plus vigilants eux-mêmes. Faut le dire.
Tout à fait, oui, c'est ça. C'est qu'il faut accompagner et soutenir dans la démarche, quoi. On peut prendre une... Comme vous voulez.
Oui, non, mais par rapport à ce que tu dis, Eric, effectivement, les jeunes ne sont pas dupes, même s'ils
tout
voient
fait,
beaucoup,
ils
beaucoup de choses.
Sur les réseaux
ils arrivent aujourd'hui
à
prier et puis à prendre beaucoup plus de distance. Oui.
Ils ont déjà des clés, mais c'est vrai que je pense qu'ils sont très demandeurs, et c'est ce que j'ai vu aussi en faisant des recherches, ils sont très demandeurs aussi d'aide en disant, de toute façon, je suis sur les réseaux sociaux, c'est ma porte d'entrée, juste aidez-moi à faire le tri. Mais les adultes aussi, des fois, sont perdus. Il y a une nouvelle intervenante, et pareil, comme tout le monde, est-ce que tu peux te présenter, nom, prénom, ce que tu fais
Floriane, coordinatrice périscolaire. En fait, je voulais rebondir, parce qu'en fait, quand moi, j'entends que l'information vient des réseaux sociaux, c'est parce que justement, en fait, des fois, on peut avoir l'actualité de Ouest France, de d'autres médias, et qui, en fait, passent par les réseaux sociaux, et que pour moi, en fait, les jeunes, vu qu'ils balayent, de nouvelles en nouvelles de publications, en fait, on trouve un peu de tout. Et en fin de compte, c'est aussi, je trouve une façon dont ils ont accès. Et enfin, pour ça que quand j'entends par les réseaux sociaux, oui, mais il y a aussi l'actualité d'aujourd'hui, parce qu'en fait, maintenant, tout le monde met en fait des podcasts ou de la publication, aussi bien sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook.
Ils n'ont pas eu le choix.
Ça
leur détriment.
Tous les médias nationaux, les radios...
Ils ne voulaient pas. C'est les GAFA qui ont publié Google et autres.
Il faut être là où les usagers sont, finalement. C'est aussi parce que...
Mais à l'origine, c'est les GAFA et Meta, tous ces groupes-là, qui ont commencé à publier leurs articles sans le consentement des journaux. Donc la négociation, je ne sais pas où... Ça en est, mais aujourd'hui, les journaux acceptent l'idée parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Ils ont subi, ça c'est quelque chose qu'ils ont subi. Google qui reprend les articles de Ouest France sans citer Ouest France, aujourd'hui ils le font. Mm-hmm. Ils citent Ouest France, mais il n'empêche que Ouest France n'a jamais demandé à ce que leurs articles soient
sur Google.
Ou Facebook ou ailleurs. Mais bon, aujourd'hui...
C'est un autre débat.
Aujourd'hui, oui.
On pourrait repasser une heure dessus.
Non, mais c'est pour dire que c'est aussi par ce biais que les jeunes aussi peuvent aussi avoir l'actualité.
Et puis c'est gratuit aussi, rappelons-le.
C'est notre débat.
D'être sur les réseaux sociaux, c'est gratuit.
L'information
effectivement,
gratuite,
on peut encore avoir un débat encore d'une heure sur
l'information ne devrait pas être gratuite.
De prime abord, l'information effectivement est gratuite sur les réseaux sociaux, mais qui est finalement le produit c'est la personne qui est derrière son écran, c'est vrai.
Et qui est payée pour le faire.
Moi, je voulais revenir sur la pratique des adolescents de la technique, en fait, de la radio. Mm-hmm. Juste par rapport à un mode d'écoute qu'ils ont, je trouve, et qui est assez développé chez eux, ils écoutent beaucoup d'ASMR. Et en fait, quand on les met devant un micro, enfin beaucoup, je sais pas à quel niveau, mais...
Ce que c'est.
Ah oui, l'ASMR, on peut peut-être expliquer.
Alors,
c'est en fait sur YouTube quelqu'un qui coupe un savon et c'est super pour les oreilles, non c'est ça. Non, j'ai cru voir ça.
Oui, il y a tout un tas de méthodes, c'est pour de la détente.
De la détente, oui, voilà. Je dis en rigolant, mais.
Et souvent quand on les met devant un micro, ils s'amusent à ça. En fait, c'est quelque chose, c'est une pratique assez assez drôle pour eux d'essayer.
Oui, je confirme. J'étais en atelier hier, ils ont testé mes micros sans que je sois là. Super. je plaisante. Oui. Non mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont très curieux de leur voix, quand ils disent ah je m'écoute dans le casque, ah oui mais c'est super bizarre, ah ma voix elle est pas ouf en fait. Voilà. Bon après une fois qu'on a pris le micro ça va et ça passe. Mais est-ce que d'autres personnes veulent venir discuter à la table? Est-ce que par rapport à tout ce qu'on s'est dit, est-ce qu'il y a des choses à rajouter sur vos pratiques, des questionnements ou... Ça peut être aussi de toute façon des questions sur ce qu'on s'est dit, des choses qu'on n'a pas forcément compris ou... En tout cas, ouais, sentez-vous libre de lever la main, vous pouvez venir quand vous voulez. Je reprends un peu le fil de mes pensées. Petite question aussi sur vos pratiques avec vos élèves. Est-ce que une fois ou plusieurs fois, est-ce qu'il est arrivé que vous ayez une idée et que ça puisse pas se faire pour X raisons, des problématiques auxquelles vous vous étiez confrontés, j'ai testé ça, ça n'a pas du tout fonctionné, ou pas du tout, ou ce sujet-là, ça n'a pas du tout pris. Enfin, franchement, là, il n'était pas du tout captivé, on a dû faire autre chose. Non.
Non. Non. Après, nous...
des méthodes peut-être aussi qui ne fonctionnent pas, peut-être, ou au contraire, des méthodes qui fonctionnent très très bien, on dit « Ah là, ça marche à chaque fois, on a réussi à les captiver, c'est parti », ou voilà, des idées de, on va dire, concrètes, quoi.
Il y a un truc qui marche vraiment bien en termes de mobilisation des élèves, c'est le fait de réaliser une émission en direct avec eux. Alors nous, on le pratique régulièrement, c'est-à-dire que toutes les séquences qu'on réalise finissent par une émission en direct, et ils sont toujours étonnés de voir que ils ne se sont pas plantés. Mm-hmm. Parce que ils rehaussent un peu leur niveau de vigilance, de préparation, de mise en bouche de leur texte, etc., la notion de dire plutôt que lire, enfin voilà. Et tout ça, tout ça rentre bien, et en intégrant d'autres temps de préparation, des micro-trottoirs, des interviews, des choses comme ça, donc pour varier les formats. Mais ça, le direct, alors on n'est pas d'accord chez nous au SNRL, il y en a qui disent « Oh, jamais je ferai ça !» Puis d'autres qui disent, comme moi par exemple, « Si, faut le faire, faut l'oser, hein, parce que ça marche. Hein, » Et ça, moi, j'en suis hyper convaincu. Et en plus, on rentre dans une situation où ils sont, dans la vraie situation qu'eux, ils voient des journalistes, par exemple, à la télé, sur les réseaux sociaux ou ailleurs. C'est-à-dire que les gens qui interviennent, voilà, tout a été préparé. Tout est écrit, tout est clair, parce que nous, par rapport à la radio, on leur rappelle évidemment que la radio, ça commence par l'écrit, hein, c'est la phrase classique, hein, évidemment, et tous, je dis bien tous, réussissent sur cet exercice, quel que soit le niveau où ils étaient au départ, soit hyper à l'aise, hyper compétent, hyper cultivé, etc., soit dans des situations compliquées. Et c'est un résultat collectif qui apporte une satisfaction, une plénitude, on va dire, un peu aux élèves, comme quand on vient de réussir une présentation théâtrale. Ou, c'est un peu ça, quoi. Il y a une plénitude qui vient derrière, liée au direct, qu'on n'a pas avec le montage.
Ce que j'adore, justement, par rapport à ce que dit Eric, c'est cette notion de collectif et ce défi. Nous, on est réunis le matin à 10h, il y a une pause entre 12h30 et 14h, mais à 16h, on leur dit bien que vous passerez en direct. Quand ils s'inscrivent, ils savent aussi qu'ils passeront en direct. Donc, il faut déjà avoir réfléchi à un sujet, il y a le timing à respecter, il y a un peu la course entre la montre, il y a la phase de répétition aussi, à blanc, sans jeu de mots. Je ne sais pas ça parce que je suis noir, c'est un jeu de mots. Mais c'est ça aussi. Donc, il y a tout cet aspect.
Vous répétez avant de passer à l'antenne.
Passer en direct. Nous, ils passent à 16h, à 15h30, on fait... Voilà, une répétition, et c'est ça qui est bien aussi. L'idée, c'est de ne pas les mettre en difficulté. Mais s'ils viennent, évidemment, on part du principe qu'ils savent qu'ils vont passer en direct et on leur donne pas le choix.
Et Wen, je me retourne vers toi. Est-ce que tu as déjà fait des ateliers de radio dans ta scolarité jusqu'ici?
Non, j'ai pas pu faire.
Est-ce que tu aimerais en faire? Est-ce que qu'on s'est dit, ça donne envie, ou est-ce que tu dis, oh là, en fait, pas du tout.
Bah oui, ça a l'air cool.
Et quels sont les thèmes que t'aimerais aborder quand, si tu fais, imaginons, tu fais un podcast à la manière de McFly et Carlito, t'as une table ovale, tu voudrais parler de quoi, par exemple, si t'avais des invités, on peut vraiment aller, vraiment, on peut y aller, hein, tu peux même me dire, si t'as envie d'inviter Mbappé, là, tout de suite, tu peux l'inviter, hein. On peut aller dans les... Enfin, Mbappé ou quelqu'un d'autre, un autre sportif, hein, je sais pas.
Je vois qu'il n'est pas trop, il est un peu tétanisé, mais En fait, pour tout dire, j'ai des stagiaires quasiment toutes les semaines en ce moment, et en nous, notre émission, une semaine sur deux. Donc, il est tombé sur la semaine où on n'avait pas de radio, donc tant mieux là qu'il soit au micro.
Ah oui, c'est vrai qu'il faut préciser que tu es en stage chez Cartier.
Oui, avec Vitav, à la ville du Mans.
Avec la ville du Mans.
Avec le magazine Vitav.
D'accord.
Mais tous les jours, pendant son stage, je me parle de foot, il me donne de l'actualité, de l'information sur le foot, les transferts, etc. C'est la fin des transferts. Donc je me permets de répondre
à toi.
Je pense que si tu avais une émission aujourd'hui ou une chronique à faire ou un invité, ce serait autour du foot ou voir du club Arsenal. Dis-moi si je me trompe.
Non, c'est ça.
Je me tourne aussi peut-être vers... Est-ce qu'il y a certaines personnes dans l'Assemblée qui travaillent avec des... Là, on a parlé des jeunes, entre guillemets. On a surtout, je pense, parlé des ados. Est-ce que certains ici travaillent avec des jeunes, je dirais, de moins de 15 ans, moins de 10 ans? Ouais. Eh bien, écoutez, ça m'intéresse de savoir si vous voulez venir au micro pour parler un peu de ce que vous avez peut-être pu faire ou des envies que vous avez avec les jeunes en termes de radio ou en termes d'EMI plus largement. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être intéressé par la question. L'idée, c'est simplement d'avoir peut-être vos idées, vos envies, même si vous n'avez jamais fait de radio. Est-ce que vous avez déjà testé la radio, peut-être, avec les jeunes que vous accompagnez, ou pas du tout, non? Et vous aimeriez en faire? C'est pour ça que vous êtes là. Bah, écoutez, vous pouvez peut-être vous avancer, si vous voulez, si vous avez peut-être des... Est-ce que vous avez des questions pour, justement, vous lancer dans... C'est peut-être pas forcément évident de se lancer dans un atelier de radio, surtout peut-être avec des plus petits. Je sais pas, est-ce que... Après, voilà, la question est ouverte. Tu peux t'installer là si tu veux. Installe-toi là. Non, ça va? Ok. Donc, je rappelle, donc tu travailles avec sur les temps périscolaires, c'est ça?
C'est ça.
Les élèves, enfin les jeunes avec qui tu échanges...
En fait, j'interviens aussi bien sur tous les temps périscolaires de la semaine, et y compris lors des mercredis, centre de loisirs.
Et les tranches d'âge à peu près des jeunes que tu as
3 à 10 ans. En
d'accord.
fait, vraiment de la maternelle, donc de la petite section, en fait, au CM2.
Et qu'est-ce que t'en penses de la radio, justement, avec des jeunes de cet âge-là, entre 3 et 10 ans? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as déjà réfléchi à des idées que t'aurais envie de mettre en place?
En fait, justement, je suis venue pour...
Pour trouver des idées.
Ok,
très bien.
Parce qu'en fait, j'ai pu observer que majoritairement, arrivés du CE2 au CM2, de manière générale, ils ont encore plus accès aux réseaux sociaux. Et
ils ont déjà un téléphone à cet âge-là, hein,
ils en ont chez eux.
Ils en ont.
Dès quel âge finalement moi, je n'ai pas d'enfant, mais ça commence vers...
Je pense que ça dépend des familles.
Alors à la
famille,
on me dit 8, 9 ans, des fois on peut déjà être...
Il y en a à 9 ans, ils ont des téléphones.
Ouais, des téléphones, et donc on a déjà accès aux réseaux sociaux, c'est ce que tu remarques en fait.
C'est ça. Alors après,
Ewen, tu veux dire, oui?
Moi je l'ai eu en 6e.
En 6e, t'avais un téléphone? Ouais.
Ma fille de CE2, elle dit qu'il a la moitié de sa classe ou plus à un téléphone. Okay.
Alors après, est-ce qu'avoir un téléphone veut dire forcément que tu as accès aux réseaux sociaux? Peut-être pas, peut-être que les parents parfois font un pare-feu quand
je
même.
Je sais qu'il y en a qui l'ont plutôt aux tablettes.
Tablette? Oui, vas-y.
Moi, j'ai eu mes premiers réseaux sociaux en 5e, 4e.
D'accord, ok.
Hors la loi.
Effectivement, j'allais dire, il y a quand même un âge légal, rappelons-le, je crois que c'est 11 ans, moi je m'en
vais. 13 ans.
Et 15 ans, enfin, le 15 ans, il n'est pas encore passé.
15 ans, c'est autorisation, sans autorisation parentale.
Oui. D'accord.
Mais comme les parents acceptent aussi que leur enfant ait 9 ans...
On peut tricher.
Non, de 9 ans à 13 ans, donc...
J'avoue, j'ai triché au moment de m'inscrire sur Facebook. C'est pas bien de faire ça. Mais vas-y, je te laisse continuer sur ce que tu disais.
Bah en fait, du coup, je sais que de manière générale, en tout cas sur les enfants que j'accueille, nous, en fait, ils ramènent pas de téléphone, mais je sais qu'ils ont accès à l'information. Je sais qu'il y en a qui en ont, mais d'autres, c'est plutôt des tablettes, ou alors maintenant avec les smart TV, directement Internet sur la télévision. Et donc, pendant que le parent prépare à manger, tout simplement, l'enfant, en fait, au lieu de regarder la télé, va plutôt sur YouTube ou sur des réseaux sociaux. De ce fait, par moment, leur sujet de conversation ou leurs agissements, pour moi, n'est pas adéquat avec leur âge.
C'est-à-dire, est-ce que tu as des exemples?
Par rapport à des sujets, ils vont commencer à parler de la sexualité beaucoup plus jeune. Ils vont commencer plutôt à aborder aussi tout ce qui est des questions de violence ou de vulgarité en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était plutôt vers le collège. Et en fait, maintenant, ça arrive de plus en plus jeune et de plus en plus tôt.
Dans la violence, c'est-à-dire qu'ils ont vu déjà des scènes, ça veut peut-être dire qu'ils ont vu des scènes
par
sur les
rapport
réseaux sociaux,
à des séries, par rapport à de l'actualité, par rapport à différents moyens. Mais en tout cas, c'est que peu importe le moyen où ils le trouvent, c'est que en tout cas, ça touche la plupart des jeunes, si ce n'est pas même tous les jeunes. Et en fait, moi, je cherche du coup aujourd'hui des idées d'activités ou de choses à mettre en place auprès des jeunes pour leur faire prendre conscience de ce qu'ils regardent, de ce qu'ils regardent pas, de ce qu'ils entendent, de comment traiter et aborder en fait des sujets de tous les jours pour améliorer en fait leur quotidien. Et un peu les apaiser, en fait.
Je comprends. Donc, c'est-à-dire partir d'un constat, partir de leurs usages, de ce que tu vois, et comme on disait ce matin pour ma grand-mère, c'est-à-dire qu'il faut les accompagner, les soutenir, en disant, effectivement, tu as vu ça, oui, je comprends. Donc, des ateliers d'éducation aux médias libres, avec un gros lien sur les réseaux sociaux, donc.
Donc, en fait, en gros, je suis venue chercher, en fait, un peu comme des outils pédagogiques des idées.
Ouais.
Puisque, forcément, par rapport au budget, on est tous de plus en plus limités. Par rapport à mon temps sur lequel je peux intervenir sur les temps du midi, il est relativement court.
Court.
Donc, en fait, c'est des successions de 40 minutes. Donc, après, on peut monter plein de projets. Tout est qu'une question de planification, mais on n'a que des tout petits temps. Et en fait, qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur ces petits temps pour justement accompagner? Et donc, moi, en fait, c'est comment je vais accompagner mes animateurs pour qu'eux, ils puissent le faire auprès d'enfants.
En sachant que ce qu'on s'est dit, c'est vrai, ce matin, et ce qu'on s'est dit aussi pendant cette conférence, c'est vrai que je pense que vous, les animateurs et, je dirais, la sphère, on va dire, de l'éducation en général, le temps d'apprentissage, apprendre, ça prend du temps. Donc finalement, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, mais finalement d'avoir des temps plus courts mais plus réguliers, peut-être que finalement c'est peut-être plus efficace. Je cite ici une chercheuse qui est à l'université de Lorraine qui s'appelle Anne Cordier. Elle a fait pas mal de recherches sur ça. Elle est en sciences de l'information et de la communication. Elle a travaillé avec des jeunes, elle a observé des jeunes pendant plusieurs années, et finalement, le constat, c'est que il y a un temps d'infusion en fait de l'info chez les jeunes, et finalement, peut-être que ton temps que tu as avec les jeunes est finalement plutôt adapté. Alors c'est vrai que, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, excuse-moi ton prénom.
Christophe.
Christophe, tu parlais tout à l'heure d'un club. Est-ce que c'est à peu près les mêmes horaires? Alors c'est vrai que vous n'avez pas les mêmes publics, toi tu es plutôt collège.
Oui.
Donc toi tu es plutôt avec les primaire, même maternelle, primaire et début de collège, élémentaire. Mais finalement, le temps, je ne sais pas qu'est-ce que tu pourrais lui répondre, qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil en fond.
Puisque c'est le cadre, c'est un club, donc il y a le côté régulier, c'est toutes les semaines. Parfois ils enregistrent, parfois ils vont réfléchir à ce qu'ils vont faire, et ça dure une quarantaine de minutes.
Donc finalement.
Voilà. Parfois c'est un peu plus long. On a reçu un écrivain, on a reçu lors de Dr. Rose, on a reçu un cancérologue. Donc il y avait une interview à préparer, donc il y avait un temps un peu spécial pour cette action-là. Mais sinon aussi une trentaine, 40 minutes on va dire. Voilà.
Mais comment as-tu ciblé du coup les jeunes et parce que j'imagine que c'est très limité, que tu dois avoir seulement que quelques-uns.
Alors, je n'ai que quelques élèves. C'est des volontaires. Je n'ai pas beaucoup de volontaires pour l'instant. Et j'attends, comme je disais, pour l'instant, j'ai un seul micro. Donc, j'ai commandé un vrai studio. Et quand j'aurai le vrai studio, je pense que il y aura un effet waouh, comme on dit. Donc, certains élèves vont être attirés par le studio. Et je vais essayer de convaincre d'autres élèves de participer à ce club.
Lucille.
Moi, je n'ai pas vraiment de conseils, c'est plutôt des propositions. Nous, en fait, nos podcasts, on a sollicité en fait les écoles autour sur un thème. Et en fait, c'est les primaires qui ont posé des questions, ou des collégiens. Donc après, si ça vous intéresse de travailler en fait sur poser une question, et nos élèves à nous, en fait, vont répondre en format podcast. Alors pour l'instant, nous, on est sur du réchauffement climatique, mais alors après, s'il y a d'autres collègues dans d'autres disciplines qui s'en saisissent, et si ça vous intéresse, on peut se renseigner. Et on a une salle radio, nous, au lycée Sud. Donc après, si vous êtes vraiment plus intéressé d'aller plus loin et de venir dans cette salle, on peut aussi organiser des choses, je pense. Nous, on aime bien faire du lien autour.
Et tu es situé où, toi? Excuse-moi, rappelle-moi ton prénom.
Floriane.
Floriane.
Moi, je suis dans le quartier Maillet, Bellevue, Carnac.
À au Mans.
Ouais, vraiment au Mans.
Et j'ai juste une petite précision à te demander. C'est peut-être moi, mais j'ai pas compris. C'est-à-dire que c'est des primaires, ils réfléchissent à des questions, et les élèves des classes que tu accompagnes du lycée répondent à leurs questions. C'est vraiment un échange intergénérationnel, en fait.
L'idée, c'est ça. D'accord. Et donc, ceux qui le souhaitent peuvent venir enregistrer au lycée, mais c'est vrai que ça demande du temps de déplacement. Mais voilà, s'ils veulent découvrir la salle, c'est possible. Sinon, ils vont enregistrer, enfin, l'élève de primaire ou de collège, parce qu'il y a des collégiens qui l'ont fait aussi, vont enregistrer leurs questions. Et en fait, ce sera leur voix dans la question. Oui. Et nous, on renverra la réponse sous forme de podcast.
D'accord.
En tout cas, la clé, c'est la régularité, effectivement, mais c'est comme pour toute discipline. Et Cartable FM, par exemple, Delphine de Cartable FM intervient dans quelques écoles du monde, donc déjà, il doit faire des choix. Il y a la question des moyens. Il faut aussi qu'ils inscrivent un dossier. Mais c'est quand même dit souvent, c'est très, très limité entre le moment où elle arrive, qu'elle s'installe. On est sur du temps périscolaire, donc c'est très, très, très serré. Et donc, effectivement, c'est une vraie limite. Il y a des établissements scolaires, beaucoup de collèges se sont dotés ces dernières années aussi de matériel pour faire de la radio. Mais si le professeur n'est plus là et personne ne prend le relais, c'est une limite.
Il faut être formé techniquement.
Donc, effectivement, la régularité, la formation et l'accompagnement avec un intervenant professionnel. Et donc, effectivement, on peut aller avec toute la bonne volonté du monde. Il y a plein d'animateurs animatrices qui aimeraient pouvoir proposer ce genre d'atelier, d'activité, mais on est limité après sur la disponibilité d'un intervenant, le coût, le
temps.
Tout
à fait, il faut prendre tout ça en compte, ouais. En sachant que pour donc les personnes ici qui sont plutôt dans la découverte, et ben, en fait, il y a quand même énormément sur Internet de ressources en libre accès. Quand on fait une recherche sur ce genre de thème-là, je me suis rendu compte que j'étais plus efficace quand je savais déjà ce que je cherchais. Et c'est à ce moment-là où j'avais des recherches ciblées. Encore une fois, sur le podcast, on mettra une bibliographie dans les commentaires, en notification en dessous. Il y a le CLEMI, il y a une association qui s'appelle RespectMI aussi, il y a des ateliers qui sont déjà tout faits, c'est-à-dire que c'est, on va dire, du clé en main presque. Où on a les horaires, il faut faire ci à tel moment, le déroulé, l'objectif, tout est dans une sorte de petite fiche PDF en fait, où on peut et il y a des ateliers qui existent sur un temps très court comme ça, enfin très court, de 40 minutes, en sachant qu'effectivement, comme tu le dis, il faut préparer l'atelier avant, faut débarrasser la table après, parce que un studio ça prend du temps à démonter, faut prendre forcément le temps de créer le déroulé de cours. Je pense que les professeurs, vous devez connaître ça, les déroulés. Enfin, bon, personnellement, en tant que journaliste, j'ai découvert ça quand j'ai démarré l'éducation média, mais voilà, ça prend du temps. Je mettrai toute une liste de ressources accessibles comme ça, en sachant que, juste un petit focus sur le CLEMI, vous, en tant qu'acteur de l'éducation, vous êtes dans le public, peut-être, en périscolaire, c'est du public, là où vous êtes. C'est-à-dire, le temps périscolaire, ça, c'est lié à quel... vous êtes financé par la mairie, peut-être, c'est ça,
la
mairie du Mans. Ok. Faut voir, en fait, avec le CLEMI, parce que je sais qu'ils forment gratuitement des gens qui sont dans le milieu scolaire. Alors, avoir les conditions exactes, je sais que, par exemple,
On a fait une formation du CLEMI l'an dernier. Oui. Après, alors je sais pas au niveau périscolaire si vous pouvez vous inscrire. Oui. Nous, on a un truc qui s'appelle le plan académique de formation et donc on peut s'inscrire par ce biais-là sur certaines formations.
En tout cas, ils ont des formations.
En tout cas,
si vous cherchez, vous allez trouver sur Internet. C'est vrai qu'il faut prendre du temps. La recherche, ça prend du temps, la veille. Mais gratuitement, il y a des choses.
Excuse-moi, il y a au lycée Touchard au Mans, le lycée Touchard Washington, il y a une référente CLEMI. Natacha Mouillet s'appelle. Donc faut pas hésiter aussi à la contacter au lycée Touchard et voilà, en termes de ressources, en termes de formation, si elle peut t'aiguiller ou vous aiguiller.
Mais en tout cas, sur la question de la question c'est sensibiliser justement à ce qu'on disait, à essayer de faire le tri dans cette jungle des réseaux sociaux, de faire le tri entre qu'est-ce que c'est une info, qu'est-ce que c'est une pub, est-ce que ça c'est une fake news ou pas, je sais pas. Sinon, c'est aussi par exemple de faire des quiz ou de faire des... Alors après, c'est un qui sont assez jeunes, ou de faire des... d'aller toujours dans le ludique, dans le jeu, dans le... toucher, je pense que je t'apprends rien dans les techniques d'animation, j'imagine, mais de mêler en fait tout ça, d'apprendre en pratiquant et je dirais aussi de passer parfois par la compréhension de comment fabrique une information, c'est déjà un premier pas vers une sensibilisation à la désinformation, enfin de rentrer directement sur les fake news. Parfois on peut aussi passer par la porte d'entrée de on pose les bases, alors un journaliste c'est quoi, etc. Tout ça. Voilà, j'ai pas de.
Et un site ou une boîte à outils ou un endroit où on peut trouver en fait, par exemple, ce que je pourrais donner à mes agents.
Oui.
Des fiches techniques, des fiches pratiques.
C'est ça.
Avec un détail que du coup, eux après, ils puissent les réutiliser et les mener en fait auprès du public.
Oui, ça existe, comme je dis, en accès libre sur Internet.
N'hésite pas à te rapprocher aussi du secteur jeunesse de la ville du Mans, parce qu'on a plein d'outils, on fait des interventions toutes les semaines. Et même moi, je peux venir aussi échanger avec les élèves gratuitement, je précise. Donc, même à 10 engagés, de toute façon, moi, tu me contactes et je viendrai. De toute façon, je le fais déjà, donc il faut juste... comme il n'y a pas forcément toutes les infos qui circulent, vous n'êtes pas forcément au courant de nous ce qu'on fait, ni vous ce que vous faites, alors qu'on est dans la même maison. Donc, faut pas hésiter à nous contacter.
Après, Chloé, elle t'en parlera mieux que moi aussi, mais sur le Clémy, ils ont pas mal de choses clés en main, donc on en a fait un justement hier. Alors il est long, il est en 3 heures, mais en fait, je pense que ça peut être découpé.
Alors clé en main, c'est
Là, c'était une enquête, donc en gros, elle va vous raconter ça uniquement.
En fait, ils proposent plusieurs formats, donc c'est des formations en ligne en général, aujourd'hui. Et il y a des formats qui sont plutôt adaptés au cycle 1, 2, enfin voilà, c'est jusqu'à... Je dirais du primaire jusqu'au lycée. Et nous, donc, les formats qu'on fait, c'est des formats lycée, collège-lycée, il me semble. Et oui, celui qu'on a testé hier, c'est un jeu autour de la déforestation en Amazonie. Et du coup, ils sont mis dans la peau de journalistes qui doivent enquêter sur la mort d'un journaliste au Brésil. Et c'est des activités vraiment clés en main, c'est-à-dire qu'on a tout le matériel pédagogique, on a... juste besoin de le prendre en main, mais tout est déjà ficelé et proposé gratuitement.
C'est hyper interactif. Du coup, c'est avec tablette, un peu téléphone. Enfin, il y a vraiment un peu de tout partout.
Oui, il y a de la vidéo, il y a du son, et il y a une activité à faire à la fin. Et c'est des formats, en tout cas pour nous, les jeux auxquels on participe, de 3-4 heures à peu près.
Donc c'est en... découper, je pense.
Et ça peut être, oui, en 3 fois, voilà. Il y en a aussi un sur le procès de Bobigny. Voilà. Donc, il y a plusieurs thématiques. Et je sais qu'en collège, il y en a d'autres aussi. Donc, sûrement en primaire aussi.
Merci beaucoup. Dernière question aussi assez pratique, puisqu'on est dans le concret pour trouver des idées. Le podcast, c'est de la radio. Comment vous faites s'il faut se déplacer? Comment vous faites pour, c'est ce qu'on se disait ce matin en conférence, comment on fait pour que les jeunes ne fassent pas ce qu'on appelle du bâtonnage, donc c'est-à-dire en langage, on va dire en journalistique, c'est-à-dire on va chercher sur Internet plein de sources et ensuite on fait, on va dire, notre recette avec ce qu'on a trouvé sur les réseaux sociaux ou sur Internet. En faisant des recherches.
Alors, nous, on leur impose une interview, en fait, dedans. Donc, il y a une partie où ils recherchent l'intervieweur. Alors, on les aide beaucoup. Souvent, on prend des chercheurs de l'Université du Mans, donc ils sont quand même plutôt accessibles. Il y en a qui se déplacent dans notre lycée. Ça nous permet aussi de présenter le métier de chercheur. Donc, comme ça, on fait...
Donc, ils viennent dans vos locaux.
Dans nos locaux. Et on enregistre dans notre salle radio ou avec nos enregistreurs. Et sinon, on a eu besoin de toucher des gens qui étaient un peu plus loin. Donc, on a fait des interviews par téléphone. On a dû en faire par... je ne sais pas si c'était WhatsApp, mais en tout cas par visioconférence aussi. L'an dernier, on a interviewé un attaché parlementaire qu'on avait par connaissance et qui avait travaillé... alors, c'était quoi sur l'environnement, je pense, au niveau de l'Europe, sur les lois environnementales.
Mais c'est vrai que l'enquête de terrain, c'est essentiel.
C'est ça, ouais.
Les amener à aller faire une interview, bon, déjà, ça veut dire que tu vas aussi ne pas te contenter de ce que tu as pu recueillir comme source, mais tu te mets un peu plus en danger et tu te livres un peu plus aussi. L'engagement
c'est-à-dire,
est plus fort.
Tu te mets en danger, c'est-à-dire dans quel sens tu viens
Parce que c'est un confort aussi si on s'appuie uniquement sur les autres sources.
C'est ça, tu es devant un ordinateur, sur ton bureau.
Là, l'engagement est plus fort, il faut préparer en amont, aller se confronter à quelqu'un et recueillir, et puis après, il y a tout le travail qui est passionnant. Aussi bien nous, pour un webzine, que en tout cas en radio, c'est qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce qui est pertinent ou pas, et puis à un moment, l'émission dure 37 minutes, il faut pas aller au-delà, il y a tout ça qui est... Ça, c'est le défi qui est passionnant.
Pour compléter, effectivement, quand on fait le bilan d'une action radio, en général, ce qui a le plus marqué les participants, qu'ils soient jeunes ou adultes, c'est le fait qu'ils ont pu parler à des gens qui leur semblaient a priori inaccessibles. Voilà, des spécialistes, des personnalités, etc., etc. Et il y a une autre valeur dans le travail sur les médias, c'est développer la capacité de ce que nous on appelle le aller vers. Parce que on est souvent dans des logiques, on va dire, un peu communautaristes entre les jeunes, et les jeunes restent entre les jeunes, hein, avec leur communauté, etc. Et on veut surtout qu'ils aillent interroger des gens qui sont d'autres milieux, d'autres âges, d'autres compétences, etc. Et effectivement, si on peut avoir les moyens de les emmener sur du reportage, hein, ou qu'ils puissent aller sur du reportage sur le terrain, c'est évidemment ce qui est le... Bah, c'est le Graal du journalisme, en fait, le reportage. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'observer, d'interviewer, de monter, tout cela. Donc ça c'est important. Et donc, l'interview, je suis bien d'accord, le contact avec quelqu'un d'autre, bah, on est la radio, donc on fait parler. C'est basique. On ne parle pas à la place d'eux. Si on peut faire parler quelqu'un, c'est quand même nettement mieux. Et on a besoin aujourd'hui d'aller vers. Et moi, je voudrais insister sur une dimension aujourd'hui du média radio en matière d'éducation. C'est que je suis persuadé d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a un gros déficit de parole, principalement chez les plus jeunes. Je suis persuadé que les excès de violence qu'on a aujourd'hui, les passages à l'acte dramatique qu'on peut observer, sont liés au fait que chez les jeunes, on a tué une bonne partie de capacité à pouvoir utiliser la parole pour pouvoir médiatiser, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir écouter, pour pouvoir prendre du temps. Et je pense que parmi les objectifs qu'on doit se donner, nous, médias, quand on intervient, c'est pas seulement de décoder l'information, mais c'est de leur faire comprendre à quel point la parole, se parler, s'exprimer, utiliser toujours plus de mots, etc., c'est peut-être un des meilleurs paravents qu'on puisse avoir face au développement de la violence. Quand on n'a plus les mots, on passe à l'acte.
Et ça m'intéresserait d'avoir peut-être ton avis, Floriane, justement, parce que tu travailles, tu disais des plus jeunes, j'entends plus jeunes, tu pensais à Eric, tu pensais peut-être à... Quand tu dis des plus jeunes, tu pensais peut-être à la tranche d'âge dont on parle depuis le début de l'émission.
Moi, je vais te dire clairement, pour moi, l'éducation aux médias doit commencer à l'école maternelle.
D'accord, bon,
pour te dire, il n'y a pas de limite. Hein,
alors, Florian, c'est un peu la tête. Oula, comment on va faire ?
Je te donne un exemple. J'ai une collègue à Radio Clapas à Montpellier qui a fait un travail avec des jeunes de maternelle sur les doudous. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, tout simplement, chaque gamin a ramené son doudou. Et puis, il a parlé de son doudou et il a amélioré au fur et à mesure la façon dont il parlait de son doudou avec le descriptif et tout l'affectif qu'il y avait derrière. Et pour vous dire à quel point ça allait loin, c'est que ça a fini par l'image, la photo du doudou, le son du doudou et une exposition présentée à Montpellier où les gens venaient voir justement cette production de gamins qui avaient 3-4 ans.
Génial.
Donc ça commence vraiment très tôt.
Et tu trouves ça pertinent, finalement, parce que c'est ce que tu dis, c'est par rapport à la parole, ça, améliorer ce...
Dès que possible, essayer de développer l'accès à la parole et la partager, donc pas ce que je fais en ce moment, quoi.
Et Florian, qu'est-ce que tu en penses, justement, parce que tu as dit que tu travailles avec des enfants qui, à partir de 3 ans, justement, sur cette question de la parole, c'est quoi un peu ton constat sur, justement, leur manière de s'exprimer est-ce que c'est... Alors, à 3 ans, encore une fois, j'ai pas d'enfant. Les enfants, ils commencent à parler à quel âge Alors, je sais pas s'il y a vraiment un âge standard. Je pense que tous les enfants se développent selon leur âge, mais...
Moi, je trouve que ça dépend surtout, en fait, du public.
Du public, c'est-à-dire le public qui est en face des enfants ou du public qui parle des enfants eux-mêmes ?
Bah, en fait, pour moi, chaque famille, en fait, est différente. Il y en a où c'est plus facile... d'accéder à la parole et par exemple des petits moi j'ai un public avec une très grande mixité.
D'accord.
Par exemple sur le centre de loisirs j'accueille près de 13 écoles différentes, donc aussi bien publiques que privées, et donc en fait j'ai vraiment de tout, des enfants à 3 ans qui me tiennent une conversation en me sortant des mots de vocabulaire et qui me racontent qu'ils sont allés au musée et tout ça. Et à côté, des enfants qui parlent très peu, voire pas, mais parce que en fait, dans leur famille, c'est il y a une façon de faire et donc enfin
il y a oui il y a un manque de communication ou en tout cas la, dans l'éducation c'est pas forcément mis en valeur quoi globalement okay. Et donc justement on parle de radio et la radio ça pourrait être pertinent finalement alors avec les élèves que tu as en périscolaire.
Alors moi
c'est un outil qui t'intéresse.
Moi par exemple les petits les moyens ils sont en sieste sur mon temps périscolaire.
D'accord,
donc
okay.
Déjà tout de suite on va accéder à la grande section.
Donc plutôt grande section donc ouais.
Et élémentaire. Mm-hmm. Moi en fait c'était surtout là cette partie radio média
par
radio. Rapport à ce que j'ai exposé auparavant. Mm-hmm. Maintenant après les enseignants ils réalisent quand même pas mal de projets souvent en partenariat. Où en fait, il y a différents moyens qui arrivent. Il y en a qui utilisent les marionnettes, il y en a qui utilisent des spectacles. J'ai une école qui a aussi ramené en fait la radio, où ils ont enregistré en fait des enfants en faisant leur poésie, ou alors en racontant une histoire. Et à côté, en fait, il y a des illustrations qui ont été faites. Et en fin d'année, au moment de la fête d'école, les parents pouvaient en fait écouter toutes les productions au fil du couloir où ils avançaient en fait dans l'histoire. Et par ordre chronologique. Donc après, je sais qu'il y a quand même pas mal d'enseignants qui sont aussi assez impliqués et qui réalisent des projets en parallèle. J'ai une enseignante qui fait aussi un journal sur l'école.
Dès la grande section, donc.
Alors là, c'est trois écoles. Donc là, c'est mes trois écoles.
Oui, c'est ça. C'est
là, le journal, c'est plutôt en CE2.
C'est ça, d'accord. Ouais.
Le projet de la radio, c'était plutôt l'ensemble de la maternelle et principalement
d'accord.
La grande section. Enfin, mm-hmm. Voilà.
Donc toi, t'arrives en fait en complément dans le périscolaire. Il faudrait que t'apportes un complément de ce que font les enseignants en journée.
C'est ça.
OK. Mais
ou après, faire quelque chose en parallèle, mm-hmm. mais avec des supports...
Ouais, ou continuer le travail qui est fait à l'école, ou des choses
ça
comme
ça. Ça peut être ça aussi.
Très bien. Et dernière question sur la radio, qui donc le projet radio qui a été réalisé avec ces enfants, tu dis, il y a un projet de radio qui a été réalisé par les élèves que tu as en périscolaire, c'est ça ?
Bah, par tous les élèves
par
de l'école,
élèves,
c'est fait par les enseignants.
C'est fait par les enseignants, d'accord. Et tu as remarqué un plus dans qu'est-ce que tu en penses de ce qui a été fait
Bah, moi, je trouvais
que
le projet était super.
Ouais, les retours étaient... C'était quoi le sujet de ce projet ? Enfin, il y avait un sujet en particulier. Par là, on parlait des doudous à Montpellier.
Je sais que c'était il y a deux ans.
D'accord.
Et en fait, c'était plutôt... Il y avait pas mal de bruitages et c'était
d'accord.
plutôt par rapport aux saisons, puis à l'eau, la terre, plutôt à ce support-là.
Très bien. Oui, Lucille. Oui,
j'ai un témoignage de maman sur le même sujet. Donc, c'est l'école Françoise Héritier, donc anciennement Perregaux-Lafière. Donc, il y a deux ans, ils ont fait tout un projet. C'était sur l'égalité filles-garçons. Donc, pareil, mm-hmm. c'est un partenariat avec le Clémy. Et donc, ils ont fait des micro-trottoirs, ils ont fait des interviews sur toute la classe. Et sur la classe, ils étaient vraiment très fiers parce qu'ils ont gagné, en fait, un prix du Clémy au niveau national.
Médiatique,
et,
peut-être, c'est ça
Alors, je sais plus comment ça s'appelait.
Il y a plusieurs... C'est vrai que quand on fait d'éducation média, il y a plusieurs prix qui existent dans tout type de catégories.
Et moi, ça reste un souvenir. Donc, c'était ma fille aînée qui l'avait fait il y a deux ans. Et je pense que si on lui demande son meilleur souvenir d'école, c'est celui-là.
Ah, génial donc, Ouais, c'est ça, c'est beaucoup... C'est vraiment
c'est un super concours.
Ouais. Et elle avait quel âge à ce moment-là ?
Et ben, alors en fait, elle était dans un contexte particulier, elle venait de changer d'école et
oui.
bon, voilà, ça l'a stressé beaucoup et c'est vraiment ce projet qui l'a ancré en fait dans sa classe
oui,
et elle avait
d'accord.
à l'époque 9 ans.
9 ans, d'accord, très bien. Mais c'est vrai que c'est, je terminerai juste là-dessus, et vous le sentez aussi quand les élèves sont à la radio, parce que moi c'est ce que j'ai ressenti, alors forcément ça fait pas 10 ans que je fais de l'éducation média, mais moi je suis toujours super impressionnée et hyper amusée parce qu'ils prennent vraiment du plaisir en fait à la radio. Je trouve c'est super important. Par exemple, quand on parlait des doudous, bon bah voilà, c'est leur vie, c'est leur quotidien, ils sont contents de parler de leurs doudous. Faut aussi que les sujets leur fassent plaisir aussi. Peut-être pas que du sérieux ou un peu des deux.
Pas forcément. Hein.
Non, je sais pas.
Je donnais du concret. Hein.
Quel sujet faire en fait avec eux
ouais. Encore, là je vais pas parler des plus jeunes, je vais parler de lycéens.
Lycéens.
Une émission qui a une semaine à peu près, qui était à Évron, sur un lycée d'Évron. Les sujets traités par les élèves sur leur propre choix, et quand j'y traitais, c'est bien traité. Hein. C'est-à-dire, il y avait l'interview, du micro-trottoir et tout ça. C'était le manque de profs à la rentrée.
Ah, c'est eux qui ont choisi ce sujet ?
C'était la pression des profs et des notes sur les élèves. Il y a eu un autre sujet sur la santé mentale qui résulte de la pression et des relations avec les parents.
Mais c'est leur quotidien, en fait, c'est ça aussi.
Voilà,
c'est,
mais en même temps,
Il y a eu des sujets sur les animaux, par exemple, et des sujets sur la protection des animaux avec des cas locaux. Et en même temps, derrière, pour finir, il y a eu un sujet sur CNews, effectivement, médias d'opinion ou médias d'information, c'est quoi la différence? Et je peux dire que ils ont été très très bons par rapport à CNews en citant des éléments très factuels. À ce moment-là, on avait de quoi faire avec les dernières déclarations de Pascal Praud, entre autres. Hein, et ça a été super bien, super bien construit. 21 élèves, on a fait 1h30 d'émission en direct avec eux, c'est-à-dire on était sur une espèce de format de talk show où les sujets d'information s'enchaînaient. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, ils s'amusent.
Oui.
Mais la plupart des sujets que eux ont traités sont plutôt des sujets graves, c'est-à-dire des sujets de mal-être. Et ils ont envie de parler aussi de cela et de l'analyser. J'ai oublié le sujet aussi sur la problématique LGBT sur Évron, par exemple. Vous voyez, des choses très 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 concrètes. Et nous, médias, on peut se permettre d'aborder avec eux, de leur permettre d'aborder ces sujets-là, parce qu'ils gagnent une liberté par rapport à la liberté qu'ils ont à l'école. Hein, et ils peuvent communiquer avec l'extérieur. Et là, c'est super fort. Donc, ouais, je me souviens mieux de l'émission. Juste la petite remarque, je disais, si on a encore des auditeurs après tout ça, si personne ne s'est pendu, voilà, c'est parfait, quoi.
Donc, ouais, mais c'est leur quotidien, c'est hyper important. Et je suis sûr que même,
ils sont graves et ils disent, on a des choses à dire.
Bien sûr, mais je pense que quand on a écouté en début d'émission Léna Situation, McFly Carlito ou peut-être Hugo Décrypte, ils parlent aussi des sujets sérieux qui concernent les jeunes comme ça, quand on parle de, je sais pas, je prends le cas de cyberharcèlement, de santé mentale, je pense qu'ils sont très intéressés aussi parce qu'on parle de leur vie. Je te donne la parole après, Lucille, mais... Je voulais juste compléter par quelques chiffres d'une étude qui a été menée par des chercheurs en Normandie. Ça s'appelle l'OPNAN. Je vais mettre aussi le lien de cette étude-là réalisée par les chercheurs. Leur échantillon, ce sont des secondes et des premières. Et ils leur ont posé la question à ces jeunes dans les médias. Que consultez-vous le plus? Les thèmes ci-dessous vous semblent-ils bien traités, pas assez traités, trop traités? Ils avaient le choix. Et plus d'un jeune sur deux estime que les questions liées à la vie des jeunes ne sont pas assez traitées. Et un jeune sur deux aussi estime que le réchauffement climatique n'est pas assez traité. Mais évidemment, heureusement que l'école est là finalement aussi pour en parler. Et à contrario, top 3 des thèmes qui sont trop traités selon donc ces jeunes, l'actualité politique, l'actualité économique. Voilà un peu ce que raconte cette étude-là. Mais finalement, vous parlez de réchauffement climatique et je pense que ça leur plaît, le réchauffement climatique. Je pense que c'est peut-être imposé parce que avec votre collègue, vous êtes prof d'SVT, prof de physique chimie, donc c'est aussi parce que ouais, c'est votre spécialité.
Ouais, mais c'est imposé par les programmes scolaires.
Oui. Après... Mais est-ce qu'ils sont... ils sont jeunes, on parle beaucoup d'écologie, d'inquiétude. Est-ce que finalement, ça les... ils aiment ce thème-là?
Pour eux, c'est compliqué. Parce qu'en fait, c'est dans les programmes scolaires, donc dans beaucoup de disciplines. Hein, ils vont aussi le faire en EMC... Donc,
EMC, éducation.
Non, pas EMC. Alors c'est.
Donc,
si, c'est ça.
Éducation.
Morale et civique.
Morale et civique.
C'est joli.
D'accord. Ouais.
Et donc en fait, on leur montre les constats qui sont quand même alarmants, qui sont réels, hein, qui sont scientifiquement réels. Et ils ont du mal à saisir des solutions ou de voir. Alors les solutions, on les donne, enfin, mais on n'a pas envie de s'en saisir non plus. Enfin, éviter les transports en avion, manger moins de viande, c'est des choses. Eux, ils ont envie de voir le monde, ils ont envie de, les solutions qui sont proposées conviennent pas forcément à leur état d'esprit où ils ont l'impression de pas pouvoir s'en saisir. Le fait de leur proposer, je pense de le travailler sous une autre forme où c'est eux qui font leurs propres recherches, qui font leurs propres interviews, ça leur permet aussi de s'en saisir différemment. Et après, alors, le recul, on l'a pas encore sur le réchauffement climatique parce qu'on l'a démarré cette année.
Donc, cette année-là,
le recul, on l'a parce qu'il y a deux ans, on a commencé, il y a même plus de deux ans, 3-4 ans, on faisait ça sur la pollution plastique dans les océans.
D'accord. Vous avez traité ce sujet-là en éducation, aux médias?
Non, on l'a traité en physique, chimie.
Vous l'avez traité
SVT,
dans vos cours.
On prend quelques libertés pour faire des choses. Et au final, deux ans après, en fait, moi, j'ai des élèves qui m'ont reparlé et qui avaient été marqués par ça. Et donc, c'est l'intervention que je voulais faire au départ. En fait, ils se saisissent de ce qu'on leur donne, en fait, les jeunes. Et sur le moment, le fait de leur imposer un sujet qui semble pas trop leur parler et pas forcément les intéresser, et ben plus tard ou même à la fin du projet, et ben ils vont dire bah si au final ça m'a intéressé et j'ai réussi à faire des choses. Et pareil, ma fille qui a travaillé sur l'égalité filles-garçons, les livres qu'elle va nous demander, c'est beaucoup de livres égalité filles-garçons, parce qu'elle s'est saisie de ce sujet-là. Parce qu'à ce moment-là, en fait, porte, ça lui a ouvert une porte, elle s'en est saisie. Et je pense que ça, il faut leur offrir plein de portes, en fait.
Et je suis en train de réfléchir, je parle là de mon expérience personnelle, enfin professionnelle, mais du coup de mon expérience avec les ateliers. Il y a pas mal de choses qui existent aussi sur les réseaux sociaux. Alors moi, je suis beaucoup sur LinkedIn, donc je suis des confrères et consoeurs qui sont dans l'éducation aux médias, qui partagent leurs expériences. Une consoeur notamment qui s'appelle Florence Gauche, je pourrais mettre aussi en biblio, il y a beaucoup de choses en bibliographie, ses projets, donc fait de l'éducation aux médias et à l'information, avec des jeunes dans des établissements scolaires, avec des adultes aussi, et elle parle... En fait, l'éducation aux médias, elle le fait sous l'angle du journalisme de solution. Donc, juste pour un petit topo rapide sur les journalistes de solution, c'est pas du journalisme positif, je fais bien la différence, c'est pas du journalisme positif. C'est donc, il y a un problème, par exemple, réchauffement climatique, un thème précisément dans le réchauffement climatique, on dit, ok, il y a un problème, c'est quoi le problème ? Voilà, là on fait un travail journalistique, voilà, mais on n'apporte pas que le problème, c'est-à-dire qu'on se dit, bon alors, quelle solution existe aujourd'hui sur ce problème-là ? Qui a fait une action ? Est-ce que cette action-là, on questionne aussi l'action, est-ce que ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Est-ce que d'autres se sont emparés de l'action, on refait autre chose, etc. C'est-à-dire qu'on questionne le problème, on questionne l'action, on questionne les solutions. Donc, on avance un petit peu sur le sujet et je me suis dit en fait et je me mets aussi dans la boucle, parfois je le dis aussi, même moi en tant que journaliste je suis aussi un peu déprimée par les infos et je le dis aussi, il y a des fois où j'ai un coupé l'information, même en tant que journaliste c'était compliqué, et le journalisme de solution apparaît, en tout cas sans me tromper, je pense que ça fait une petite dizaine d'années que ça commence à émerger et j'ai hâte peut-être de tester ça en éducation aux médias, en radio, avec des jeunes ou des moins jeunes. Donc je ne sais pas si un jour peut-être qu'on se reverra, je ne sais pas si ça pourrait faire partie de vos futurs, ou peut-être voilà dans ce sujet justement avec tes élèves, Lucille, sur le réchauffement climatique. C'est vrai que parfois ça peut être un peu anxiogène en se disant, bon, comment on va faire ? Et finalement, ça peut faire partie de l'éducation aux médias, ça peut rentrer dans ce thème-là, on continue à faire du journalisme avec les bases qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire apprendre à décrypter l'info, c'est quoi une source. En fait, ça rentre totalement en fait en compte avec un travail journalistique de base. Et je terminerai sur cette ouverture, on va dire, sur cette nouveauté du journalisme de solution. Je crois que c'est terminé. Merci beaucoup à tous de vos interventions. Merci d'avoir partagé vos expériences.
Merci à vous, Franca, pour la journée.
Merci au Franca, effectivement, d'organiser cette journée. Et puis, écoutez, bon vent à tous. Et bon courage dans vos projets. J'espère que ça portera leurs fruits. J'espère que vous pourrez, pour ceux qui étaient là pour la découverte, de pouvoir tester des choses et de voir ce que ça donne. Merci beaucoup.
Bienvenue sur Radio Franca, la radio des enfants et des jeunes. I'm happy. I'm feeling glad I got sunshine.